Box to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over. It's over. Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
Allez, le sacre des Knicks ou la déception des Spurs, que retient-on évidemment un peu des deux, hein. Mais pour vous, quelle est l'histoire de ce match? C'est les Knicks qui étaient
en mission.
En mission, prédestinés, plus forts que tout le monde, plus forts que tout, ou qui ont eu de la chance. C'est quoi l'histoire de ces finales NBA? Non, de la chance dans le parcours.
Parce que oui, final, il faut toujours.
Au final, leur parcours, ils évitent Boston, ils évitent Détroit, ils évitent OKC.
Ils éclatent tout le monde.
Ils éclatent tout le monde.
Il faut toujours une petite part de réussite hein, dans un run de play-off. Et puis, on l'a toujours dit, on va le répéter, l'important, c'est d'être en bonne santé. Ça a été le cas de New York, qui, par le passé, a déjà fait finale de conf l'année dernière, demi-finale de conf, on se rappelle, contre Indiana. Ils sont sur les jantes, il y a des mecs blessés, ils ne peuvent pas jouer.
Merci, là, Thibodeau.
Exactement. Et là, ils sont tous en bonne santé. Il y a une rotation à 10. Ils profitent aussi de Joe Mazzulla, qui a fait une dinguerie avec les Celtics en termes de coaching. Il profite que Joel Embiid, qui a été plutôt bon contre les Celtics, soit ensuite off quasiment la série face à New York. Il profite du choc légendaire des Cavs aussi sur ce match 1 qui fait, je pense, la bascule sur le sweep. Il profite aussi que ce soit peut-être les Spurs en finale NBA et pas OKC au complet avec Jalen Williams et Jimmy Mitchell. Il faut, voilà. Après, on ne va pas uniquement mettre le titre de champion NBA sur le dos des carences des uns et des autres et des blessures.
Surtout qu'ils ont gagné contre tout le monde de la même manière. Donc, c'est qu'ils ont une identité quand même de jeu.
Exactement.
Et
ils ont montré déjà en saison régulière que c'était peut-être la kryptonite des Spurs, puisque c'est la seule équipe qui a dominé autant de matchs que ça, les Knicks. Parce qu'on rappelle que les Knicks ont pris les deux seuls titres de la saison que le NBA offre depuis quelques années. Ils ont gagné la NBA Cup, ils sont champions NBA. Donc, on va leur donner énormément de crédit. C'est une équipe qui vit ensemble déjà depuis quelques années, qui a la maîtrise des playoffs et qui ont vécu quelques déceptions. Et puis, je trouve que Mike Brown, je trouve qu'il y a eu une réinvention un peu, parce que autant en saison régulière, moi, il m'avait pas convaincu. Je détestais la façon dont jouait les Knicks. Je détestais la façon de Mike Brown, qui avait pris le relais de Thibodeau, mais finalement qui restait un petit peu dans cette même philosophie-là de tout pour le Brunson Ball et le reste. Et vous êtes là ou vous êtes pas là. Peu de rotation. Et tu t'aperçois que c'est peut-être l'équipe qui a joué avec le plus de joueurs sur les playoffs. Il joue à 10, hein, voire à 11 avec j'ai jamais son nom. Hugh Topi, je sais pas.
Hugh Porty,
qui a joué quelques minutes aussi quand Carl Anthony Towns avait des fautes. Et tu t'aperçois que les Spurs, eux, ont fait l'inverse. Ils avaient une rotation bien plus présente en saison régulière et Mitch Johnson a voulu réduire ça drastiquement. Ils ont quasiment fini à 6. Donc voilà, donc beaucoup de crédit aux Knicks, beaucoup de crédit au petit bonhomme qui mène le jeu de cette équipe-là. Donc il faut leur donner, ils ont été monstrueux, ils ont mis des roustes, hein. Ils gagnent 13 matchs de suite en play-off, c'est la deuxième plus longue série. Il y a des écarts monumentaux, il y a deux sweeps, donc moi je veux rien enlever à cette équipe des Knicks. Maintenant, moi j'aurais souhaité que Victor gagne pour les Spurs, donc on peut revenir sur la physionomie et la déception des Spurs, parce que moi si je suis déçu, j'imagine même pas comment sont les joueurs des Spurs aujourd'hui.
Par contre, laisse un peu la parole à Arnaud, parce que on a besoin de toi aussi. Non, on a peu
deux.
De rotation
ouais, deux.
Moi je suis en rotation, je suis le Luc Cornette de...
On est deux, parce que si tu vas te retourner Fred, il n'est pas là.
Arnaud.
Non, moi je retiens quand même le titre des Knicks parce que 53 ans, c'est une franchise
maudite,
qui en a bavé. Il y en a eu des projets. Hein. Tu fais venir Carmelo.
Une des premières, c'était ça. Hein. Les Knicks, c'est le PSG de la NBA. C'est-à-dire que quand tu es débarrassé de cette lose, ça devient après, attention.
Une winning machine.
Quand tu commences.
Tu vas pas t'envoyer le back-to-back quand même.
On est sur 8 champions différents de suite. Je crois
sur
que c'est
8
ça
ans,
la stat.
Ouais.
Non,
8
mais
ans.
C'est sûr qu'on ne les imagine pas faire un back-to-back. Mais quand tu arrives, quand quelque chose fait que tu te débarrasses de cette poisse, de cette loose qui te mange le cerveau, ça redevient une équipe normale et donc très compétitive parce qu'il y a quand même des moyens. Hein.
Et en plus, cette loose qui est contagieuse parce qu'il y a des joueurs qui arrivent, ils mettent le maillot des Knicks pour la première fois, ils n'ont pas vécu tous ces traumatismes et finalement, tu as l'impression que la force de la loose et des déboires des Knicks pèse sur les joueurs. Eux, ils se sont débarrassés de ça. T'as raison, Pierre. Bravo.
Pèse sur l'environnement. Regarde, On a Gershon qui a pu connaître ça quand il arrive. La fin d'aventure des Knicks pour Evan aussi. On sait que au-delà du maillot,
le passage de Joakim qui s'est perdu dans la Nike de Big Apple.
Là pour nos Français, mais tu sais aussi que l'environnement, la presse, tout, parce que les Knicks, c'est le club de New York. T'es pas partagé. Brooklyn n'existe pas dans le cœur des New-Yorkais. Alors que tu prends le baseball, c'est soit les Yankees ou les Mets, les Jets, Giants en football américain, en hockey Rangers, Islanders. Mais là, les Knicks, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'on voit une folie incroyable partout dans la ville. Donc, c'est beau de voir un titre des Knicks et tu vois tous les fans. Alors, on peut penser à Jacques Monclar aussi, nous en France, tout ça. Erwan aussi à Beautrait, qu'on connaît aussi à RMC de la First Team. Mike Breen, qu'on a entendu en commentaire, le commentateur sur la télé nationale qui est fan des Knicks. Mais tu vois, les Spike Lee, tous ces gens-là, c'est quelque chose, les Knicks. Moi, ce que je retiens sur l'aspect basket, c'est aussi l'acceptation du rôle, notamment Karl-Anthony Towns, ouais, qui finit à 13 points cette série en finale, qui a eu un impact défensif incroyable aussi dans la raquette, qui n'a pas été dominant, parce que 4, qui finissent à 13 points sur une finale NBA, tu te dis, il y a un problème. Normalement, il fait du 20-10 tout le temps.
Il avait un autre métier.
Il a mis 2, c'est ça, sur le match 5, non?
Ouais, c'est possible.
C'est comme ça.
Mais il avait un autre métier à faire.
Mais oui.
Et il faut lui donner du crédit, parce que c'est un garçon qui s'est souvent caché défensivement. C'est un garçon qu'on a beaucoup loué ses qualités offensives et qui cherchait souvent à mettre des points. Et là, il s'est sacrifié. Et parfois, il s'est sacrifié. Il a sacrifié des matchs, Karl-Anthony Towns, parce qu'il aurait pu se dire.
Ils ont bien défendu globalement.
Ouais, mais Towns, parfois, il joue très peu de minutes parce qu'il fait des fautes, parce qu'il s'envoie son défi face à Wembanyama, et à un moment donné il aurait pu se dire, attendez, moi j'ai envie de jouer 30 minutes en fait, pourquoi je vais faire des fautes bêtes? Et ben non, il s'est sacrifié, Karl-Anthony Towns. Ils ont été obligés d'envoyer Hugues Porty,
Mitchell Robinson.
Combien de fois il a été en foul trouble, Karl-Anthony Towns?
Faire un petit focus, parce que moi j'ai pas votre connaissance basket. Quand il est sur le terrain, je trouve affreux, mais par contre, rebond offensif, c'est un carnage.
Il en a pris sur la tête de Victor.
Et ça leur a fait très mal aux Spurs.
Oui, c'est un garçon qui a des carences. Tu sais que quand il va sur la ligne de lancer franc,
il tire, c'est horizontal son tir.
Il y a beaucoup de pivots qui n'ont pas de main.
C'est catastrophique. Tu fais que du alley-oop avec lui, mais au rebond offensif, il permet d'avoir des deuxièmes ou des troisièmes chances qui sont précieuses. Il se sacrifie. Alors, il n'a pas un gros coffre. Sur le match 4, il a fait 3 allers-retours. Il a demandé changement, donc parce qu'il était cramé. Mais c'est un backup. Et c'est un backup qui fait son boulot et qui ne demande pas plus. Il sait ce qu'il a à faire. Et sur ses finales NBA, pour un backup, il a été meilleur que le backup de Victor, qui est Luke Cornette, est passé totalement
Le Cornette travers. Qui avait donné un peu d'espoir quand même sur les playoffs, mais qui en finale
même
est
en saison régulière
totalement absent. Ouais.
Il n'a pas pesé, et au contraire de tout le roster.
Pas la frite.
Tout le roster des Knicks n'est pas la frite, Cornette.
Ouais, mais on l'a fait 8 fois déjà dans la saison, on ne va pas à chaque fois s'y arrêter.
Non, mais il faudrait qu'il joue avec McCain, Cornette.
Bah oui,
avec Maxwell.
C'était fait déjà.
Mais il n'y a pas un joueur des Knicks qui à un moment donné n'a pas eu un petit momentum pour aider cette équipe-là. Jordan Clarkson, sur match 3, match 4, il met des tirs. Alvarado, le portoricain, il a des séquences aussi très importantes.
Landry Shamet
a des séquences très importantes.
Surtout Anunoby quand même. Faut parler d'Anunoby.
Oui, sur le comeback du match 4. Mais après, tu sais qu'il peut le faire.
Anunoby, c'est un starter. C'est un joueur quand même plus.
Anunoby, je trouve qu'il a fait beaucoup de mal à Victor. C'est-à-dire que c'est celui, je pense, en 1 contre 1, qui a passé Victor le plus de fois. Plus facilement, j'ai trouvé.
Il lui met deux dunks. Et en fait, New York n'a pas eu peur. Toutes les franchises ne veulent pas attaquer Victor. Eux, ils se sont dit, on va l'attaquer. Et même Karl-Anthony Towns, partir de la ligne à 3 points, driver Victor Wembanyama pour l'amener au cercle et scorer sur lui. Anunoby, j'avais jamais vu ça. Un mec qui, devant Victor, le met sous le panier et lui monte dessus pour dunker. En fait, ils se sont dit, OK, c'est un défenseur exceptionnel, mais on va essayer de temps en temps d'aller le provoquer plutôt que de refuser ce qu'il nous donne. Et force est de constater que ça
a bien fait. Parce que là où Victor est très fort, c'est en dissuasion quand il est derrière avec sa dimension, mais d'aller le chercher au contact comme ça, je pense qu'ils ont peut-être été aussi surpris, les Spurs, par ce choix tactique, ce choix de Mike Brown qui a quand même outcoaché Mitch Johnson sur cette série. Par les choix, jamais. Alors, outcoaché, ça peut paraître, quand on voit les écarts qui sont quand même.
Mais ça joue parfois sur les détails, sur des décisions.
Mais tu sens quand même que jamais les Knicks ont manqué des momentum et des money time, en fait.
Alors justement, de ce point de vue-là, est-ce que vous êtes déçu de la finale des Spurs?
Alors, il faut tout remettre dans son contexte. Déjà, on était déjà stupéfait de les voir là en finale NBA.
T'aurais signé dès le début de la saison.
Stupéfait de voir gagner un match 7 à OKC, qui est le champion en titre avec le double MVP. Voilà, mais maintenant que tu as la satisfaction d'avoir fait ça, tu es en finale NBA, tu y es. Tu mérites d'être là. Et ils ont mérité cette finale NBA parce qu'ils prennent 4-1. C'est le 4-1 le plus sévère, je pense, de toutes les finales NBA. Parce qu'ils ont été dans le coup systématiquement. Ils ont été plus que dans le coup parce qu'ils ont dominé quasiment l'intégralité des rencontres. Mais à un moment donné, quand tu as 5 money time à jouer et que tu n'en gagnes pas un, Pierrot, c'est problématique. C'est problématique. Et ce qui est problématique aussi, c'est que Victor, qui est censé, qui est le franchise player de cette équipe-là, a décliné au fur et à mesure des matchs. Et que dans le money time, Victor...
La comparaison
Brunson-Victor, elle fait mal dans le money time. Elle fait très mal. Alors, ce n'est pas les mêmes gabarits, ce n'est pas les mêmes, traitements, parce que Victor, ils l'ont épuisé. Bon. Ils l'ont épuisé à le toucher en permanence, à lui taper dessus, à faire des box-outs qui ressemblent plus à Hulk Hogan sur des prises de catch que du basket. Mais ils l'ont fatigué. Et Victor, il n'avait plus aucune lucidité. Et à l'image de ses partenaires aussi, qui n'ont pas su le trouver dans les bonnes positions. Alors que Brunson, lui, toute la saison, Brunson, il a shooté entre 20 et 30 fois. Donc oui. Lui, ces situations-là, il les connaît, les money time, où il a le ballon dans les mains en permanence. Parce que Victor, eh ben, c'est la première fois qu'il devait découvrir. Et malheureusement, il a lâché des points en route, des lancers francs, des tirs de la gagne, une balle perdue. Donc moi, j'ai beaucoup de déception pour les Spurs. Eux, ils doivent avoir les boules. Avoir les boules parce que si tu perds la finale 4-1, que tu n'as pas existé, très bien, bravo. Mais là non, s'il y a 4-1 pour les Spurs... Je me réveille, moi, que j'étais dans le coma un mois et demi, je me réveille, il y a 4-1 pour les Spurs. Je dis, OK, bah, OK.
Au minimum de 12 points dans chacun des matchs, dont une fois 29. En moyenne, je crois que c'est 16 ou 17.
Ouais. Ouais,
c'est ouf.
Après, tu sais, c'est marrant, c'est un peu la tendance, je trouve, de cette saison NBA où tu as des équipes qui ont pu mener très largement et perdre derrière. Il y a un des trois Orlando qui est un peu comme vous, Orlando, oui. Je crois.
Ouais, mais là, c'est à la chaîne.
Comme ça.
Et c'est ça qui est inquiétant.
Mais ça, je trouve que c'est aussi un résumé de cette saison NBA.
5 de suite contre le même adversaire.
Oui, mais aujourd'hui, tu as l'impression que mener de 15 points dans un match NBA au milieu du troisième quart-temps, ça ne veut plus rien dire.
En saison régulière, oui.
En play-off,
on n'avait pas l'habitude. En saison régulière, combien de fois déjà, tu mènes de 30 à la mi-temps. Déjà, mener de 30 à trop tôt, déjà, c'est jamais bon parce que tu as le rebellion de l'autre équipe. La tendance aussi du jeu NBA avec beaucoup de tirs à 3 points fait que bah, tu peux combler des écarts très rapidement. Si tu as un coup de chaud, tu mets 4-5 tirs de suite, et bah, hop, de moins 15, et bah, tu as égalité. Mais en play-off, tu es censé quand même avoir ce contrôle du ballon, la gestion du tempo,
et puis des solutions.
La gestion du temps, et puis trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie.
Quand tu es à moins 29 et que tu arrives à moins 12, moins 13, là, tu dois pouvoir être capable, avec cette... Oui, à plus 29, ouais. Être capable de changer quelque chose juste pour ralentir l'adversaire.
Ouais,
pour faire que à la fin, il te reste 2 minutes, tu as 5 points.
Ils ont 50 000 temps en NBA, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont tellement
pris,
coulé.
Moi, je trouve ça franchement inquiétant. Je vous dis franchement parce que...
Non. Oublie pas la perte de balle au match 2 aussi. Quand,
oui. Je te dis pourquoi. Parce que comme tu dis, tu perds. Bon, bah, tu perds en ayant un ou deux matchs chauds que tu n'arrives pas à gérer, etc. OK, bah, c'est ce qu'on voit tous les ans. Moi, je n'ai pas de souvenir d'une finale avec un scénario identique à chaque match, défavorable à la même équipe et surtout... avec une disparition. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils les ont perdus, les Money Time. C'est quand tu regardais les matchs, tu savais qu'ils allaient les perdre.
Il y a une disparition.
C'est-à-dire que je pense qu'ils étaient cramés.
Ils n'ont rien fait pour les gagner. Il n'y a pas un joueur, et là, on va reparler de Victor, qui a pris les choses en main pour dire, écoutez, c'est moi le boss, donnez-moi le ballon, je vais aller finir le match. Et donc, tu as eu une fatalité qui fait qu'au cinquième, à peu près à entrée de quatrième quart, tu sais que c'était mort, alors qu'ils avaient encore un écart de plus 10. Moi, c'est ça que je trouve très inquiétant, parce qu'il y a un truc à combler là-dessus. Alors, peut-être les progrès de Victor vont faire que, on l'espère.
Meilleure rotation.
Mais ils ont quand même, il faut en parler, un contrat de Darren Fox qui va les plomber, parce que quand Victor a signé son contrat max...
Harper sont encore dans leur contrat rookie.
Oui, mais tu n'auras plus de marge de manœuvre pour t'améliorer. Et cette équipe-là va devoir s'améliorer si elle est championne NBA.
Oui, mais...
Ils sont très forts. Ils sont allés en finale avant qu'on les attende en finale, soit. Mais là, ils ont un déficit d'agressivité dans le money time qu'il va falloir combler en changeant l'équipe. Je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement.
Tu peux pas tout bouleverser non plus. Parce que
il va falloir faire un ajustement qui te permet de...
Il y a des ajustements à faire. Maintenant, Darren Fox, pour moi, je pense qu'il sera encore aux Spurs la saison prochaine.
Je ne vois pas comment ils peuvent s'en séparer avec 60 millions à payer pendant 3 ans. Hein.
Tu peux trouver des pigeons pour monter un trade. Hein,
c'est un pigeonnier qu'il faut.
Là, on s'arrête sur les 5 derniers matchs de Darren Fox et même peut-être la finale de conférence. Alors déjà, c'est un garçon qui a un gros problème de cheville depuis le début des playoffs. Après, De'Aaron Fox en saison régulière.
Mais il y a pas que, c'est pas qu'un mec. Ça peut pas être qu'un mec quand t'as personne à part peut-être Dylan Harper.
Non, mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que tout mettre sur le dos de De'Aaron Fox, qui est certes passé au travers de sa finale, qui a fait des mauvais choix, mais comme tout le monde, parce qu'il y a une défaillance collective, mais une défaillance individuelle de tout le monde. Stephen Castle, il fait 1/10. Hein. Le dernier panier qu'il met, c'est une claquette dunk à 40 secondes.
Ils rentrent même pas leur lancer quand même. Hein.
Ils mettent pas leur lancer, donc il y a une défaillance collective.
Donc, et, il y a quand même un problème mental. Il y a une défaillance individuelle. C'est final.
Moi, De'Aaron Fox, je reste persuadé que il fit avec les Spurs, c'est que l'année prochaine, il sera là. Après, il va se poser le dilemme parce que Dylan Harper va avoir des prétentions de temps de jeu supérieur à ce qu'il a eu pour son année rookie et il a montré qu'il avait le droit d'avoir des prétentions supérieures en termes de minutes. Maintenant, la disparition d'Harrison Barnes leur fait très mal. Je ne comprends pas pourquoi Harrison Barnes disparaît comme ça du jour au lendemain entre la saison régulière et les playoffs. T'es obligé d'amener. Il faut prendre.
Oui, d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas joué,
Je ne sais pas. Il faut demander à Mitch Johnson. Je ne sais pas. Mais il faut amener un poste 4 de haut niveau avec du tir à 3 points. Il faut que le backup de Victor soit bon quand il soit sur le terrain, parce que ça veut dire que s'il n'est pas
Patrick
bon...
Et Gershon, non ? Gershon, il a un tout petit contrat, je crois, non ?
Gershon, il a un tout petit contrat.
Millions, 2,5 millions la saison.
Oui. Mais après, Pierrot, ça, c'est nos souhaits. Tu sais, les franchises, elles sont pas forcément.
Non, on leur donne une idée, puisqu'ils écoutent Basket Time, on sait jamais.
Mais le problème, c'est qu'il faut que ton backup soit performant sur les minutes qu'il est sur le terrain. Là, le problème, c'est qu'il y avait un décalage entre Victor sur le terrain et Victor sur le banc. Donc, il faut un backup aussi de qualité. Maintenant, je ne suis pas pour tout jeter à la poubelle non plus pour les Spurs. Ça reste encore une équipe qui, l'année prochaine, va être prétendante tout en haut de la conférence Ouest. Victor, je pense qu'il a les boules. Il a les boules parce que c'était sa finale NBA peut-être un peu plus tôt que prévu, que tout tourne
le
autour de lui.
Le problème, c'est qu'il fallait la prendre tout simplement parce que, très franchement...
Mais tant qu'une certitude est retournée.
Ils peuvent attendre 5 ans avant d'y retourner.
Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'était Onyx de le prendre maintenant parce que les Spurs ont quand même envoyé un signal.
Oui, c'était Onyx, on est là.
Oui, mais c'est pas une autoroute.
Mais c'est les deux.
Arnaud, Hakim Olajuwon, il attend 8 ans avant d'y retourner en finale NBA. Dirk, il attend 5 ans avant d'y retourner
en finale
NBA.
Tu sais que ces Spurs n'ont pas atteint et sont loin d'avoir atteint leur plafond et qu'il y a encore de la marge de progression.
Il y a d'autres équipes, Arnaud. Ici, au complet.
C'était leur première campagne de play-off.
Le problème, c'est qu'elle est trop compétitive, cette ligue.
Il n'y avait que Fox qui, je crois, avait joué des play-offs avant avec une série en 7 avec Sacramento et Harrison Barnes. Mais du coup,
et Luke Cornett qui est champion NBA avec Boston.
Si tu prends sur le 5 majeur.
Ah, ok.
Sur le 5 majeur.
Non, mais t'as raison sur New York, mais c'est la même chose pour San Antonio.
Et les Spurs.
Il fallait la prendre, celle-là.
Ouais, mais après avoir tapé au ici, pour moi, ils ont manqué de taille de réservoir, d'essence dans le réservoir. Parce que quand tu arrives à faire des premières mi-temps excellentes, mais que derrière, t'arrives pas à passer la deuxième. Pour moi, il y avait paramètre physique, l'expérience, manque de qualité sur le banc.
Et puis tu joues des papas, mec. À New York, ils ont des papas qui sont là depuis 4 ans, qui ont joué des finales de conf, qui ont joué des demi-finales de conf, qui ont vécu des déceptions. Tu joues des mecs qui maîtrisent aussi ce genre d'événements, Pierrot. C'était la découverte.
À notre questionnement, je pense qu'il ne faut pas rêver de se dire que maintenant, ça y est, les Spurs, c'est une force dominante qui vont aller en finale régulièrement. Non,
en finale de conf,
OKC, je pense, l'an prochain, démarrera la saison avec un statut supérieur à celui des Spurs. Enfin, je pense, s'il n'y a pas beaucoup de mouvements, révolution,
après, y a tellement
pour
de choses
moi,
qui
OKC
peuvent se passer.
Sera favori face aux Spurs.
Il y a tellement de choses qui peuvent se passer cet été.
Et puis à l'Ouest, il y a tellement d'équipes.
Si Giannis débarque à Miami, New York, finalement, ils ne vont plus du tout être contender parce que Miami et Boston et Détroit vont être devant eux. Denver avec Jokic, il faut continuer à le sortir.
Exactement.
Dans la conférence Ouest.
Et Minnesota, tu sais pas que ça peut prendre feu.
Donc,
attention, OKC, ils ont encore une belle fenêtre, mais dans 2 ans, il y a 4 joueurs qui vont coûter presque 200 millions de dollars. Ça y est, tout le monde va arriver au contrat max.
Ils ont 45 tours de draft, donc ils feront des trades pour récupérer des joueurs, Arnaud.
D'ailleurs, ils ont payé très... Parce qu'on parle de Fox, les Spurs ont quasiment rien payé pour Fox. OK, ils vont dépenser 50 millions, mais ils ont lâché un tour de draft 2027, je crois, et pas grand-chose.
Oui, mais il coûte très cher quand même.
Pas payé cher.
Oui, mais c'est
une opportunité.
C'est ça, oui. Mais du coup, ta marge de manœuvre pour améliorer l'équipe, elle reste limitée quand même. Une fois que Victor aura signé lui-même son premier contrat...
À 301 millions.
Ouais, tu te rends compte. Bon, faut avancer. Et du coup, on va rester sur Victor Wembanyama.